Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene.
Bonjour à tous, merci de votre présence à ce cinquième cours consacré cette année au mécanisme de la conscience et à sa nature. Et le thème d'aujourd'hui, c'est le temps de la conscience, la temporalité de la conscience. À quel moment est-ce qu'on devient conscient d'un aspect du monde extérieur? De quoi dépend ce temps? Est-ce qu'on est en ligne avec le monde extérieur ou pas? Et je voudrais concevoir ce cours en partie comme un hommage à Dan Dennett, qui est mort en avril 2024, il y a un peu moins de 2 ans, qui était vraiment un des géants de la recherche de la conscience, que j'ai eu la chance de côtoyer plusieurs fois, y compris naviguer ensemble il y a quelques années, et réfléchir à ses problèmes de conscience. Et encore aujourd'hui, son livre « Consciousness Explained », « La conscience expliquée », paru en 93, reste un des grands livres, des grandes étapes, je dirais, dans l'analyse scientifique de la conscience. Alors, rapidement, quelques-uns des thèmes de ce livre, que je vous recommande toujours. D'abord, l'idée que la conscience est une propriété fonctionnelle, qu'elle a à voir avec des fonctions particulière, supplémentaire peut-être dans l'évolution, qu'elle a une utilité donc dans l'évolution et que peut-être des machines pourront un jour avoir la même utilité supplémentaire liée au traitement conscient. L'idée qu'il y a, on ne doit pas faire appel à un théâtre cartésien ni à un homunculus. Ça, c'est une idée très importante. Vous savez qu'au début du XXe siècle, lorsqu'on imaginait des modèles en neuropsychologie, on disait il y a une image mentale. Et on avait cette idée que peut-être c'est approprié de parler d'image dans le cerveau. Image des mots, image des visages, etc. Et évidemment, ça pose un problème de récursion infinie qui est illustré, par exemple, par le film, je crois que c'est Men in Black, ici, où vous ouvrez le crâne et il y a un petit bonhomme à l'intérieur. Le problème, c'est si y a un petit bonhomme qui regarde un écran dans le cerveau, évidemment, comment fonctionne ce petit bonhomme, cet homunculus? Est-ce que lui-même, il a un écran dans son propre cerveau? On a une régression infinie potentielle qu'il faut éviter. Et Dan Dennett, ça me paraît évident aujourd'hui, hein, je crois maintenant qu'on a bien acquis l'idée d'une computation derrière la science de la conscience, mais l'idée de Dennett, c'est qu'au lieu d'avoir un homunculus, un petit bonhomme dans la tête qui lui-même n'est pas expliqué, il faut faire appel à sa métaphore ici, c'est une armée d'idiots, c'est-à-dire une armée de processeurs qui chacun ont des fonctions tout à fait élémentaires, ils ne sont pas conscients bien entendu, mais dont le comportement collectif crée ce que nous appelons la conscience. Bon, une autre idée clé de Dan Dennett, c'est l'hétérophénoménologie. On ne va pas rentrer trop dans le détail, mais c'est une manière d'aborder ce dilemme qui est qu'on doit regarder la science de la conscience, on doit regarder les états subjectifs, propres à chacun, mais on essaie de le faire de façon scientifique à la troisième personne, un scientifique qui étudie les états subjectifs d'une autre personne. Alors l'hétérophénoménologie, c'est la manière d'aborder ce problème en demandant au sujet de rapporter ses états de conscience, de décrire le mieux possible ce qu'il a dans la tête à un instant donné, cet aspect subjectif, mais ensuite de traiter ces rapports conscients comme des données, comme les autres données, à côté des données objectives des neurosciences, par exemple, et d'essayer de trouver une explication pour tout ça. Autrement dit, de ne pas prendre pour argent comptant ce que dit le sujet, ça fait partie des données qu'on doit expliquer, mais il n'a pas forcément un accès, bien entendu, à ces mécanismes directs de fonctionnement cérébral. Donc s'il dit « je vois de la couleur rouge », on accepte qu'il pense qu'il voit de la couleur rouge, mais on doit toujours expliquer que peut-être c'est une illusion et qu'il y a un mécanisme derrière qui n'est pas celui auquel il a un accès introspectif. Bon, autre idée de Dan Dennett, bien familière maintenant, pardon pour la faute d'orthographe, mais c'est l'idée de multiple drafts, c'est-à-dire de versions multiples dont l'aboutissement est ce que nous percevons consciemment. Il y a de nombreuses étapes successives pour accéder à la conscience, et même au sein de la conscience, il peut y avoir des révisions dans le temps, on va le voir dans un instant, et c'est le résultat de tout ce calcul, ce foisonnement de calcul, qui résulte dans ce que nous appelons le contenu conscient. Et donc, cette métaphore, qui est très proche de l'espace de travail neuronal global que nous proposons, hein, qui est que la conscience est un peu comme la gloire ou la célébrité dans le cerveau. Il y a de nombreuses représentations à chaque instant et il y en a une à un instant donné qui est plus célèbre que les autres, qui gagne accès à la célébrité et qui peut être diffusée à l'ensemble du système. Et puis, et c'est le thème d'aujourd'hui, Dan Dennett, dans son livre, et ça m'a beaucoup influencé personnellement, explique comment on doit réfléchir au temps de la conscience, à la dimension de temps dans la conscience. Alors, il explique que la dimension de temps, c'est comme pour n'importe quel autre aspect de nos représentations mentales, le temps de la conscience subjective, le temps que nous percevons subjectivement, c'est une reconstruction, et il peut être découplé du temps physique. Si vous réfléchissez à la manière dont vous percevez la couleur verte, bon, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait du vert dans votre cerveau. C'est toujours cette idée qu'on doit abandonner l'idée d'un théâtre cartésien. Donc la représentation mentale de la couleur verte n'est pas quelque chose de vert. D'accord, c'est quelque chose de beaucoup plus abstrait, c'est peut-être un vecteur de haute dimension dans votre cerveau. Mais il en va de même pour la représentation du temps. La représentation du temps n'a pas besoin de se dérouler dans le même temps physique. La représentation du temps est aussi une représentation mentale, et on doit donc la détacher du temps physique et essayer de comprendre sa relation, qui peut être complexe, réécrite par rapport au temps physique. Alors, tout ceci peut vous paraître un petit peu abstrait. Dennett l'illustre de façon magnifique. C'est un talent de Dan Dennett, c'est vraiment de donner des métaphores, des exemples, et en particulier dans la littérature scientifique aussi, des illusions visuelles qui sont particulièrement parlantes. Et l'une d'entre elles, c'est le mouvement apparent. Alors, je pense que vous percevez cette illusion actuellement. Vous avez simplement ici, sur cet écran, deux écrans qui changent régulièrement, l'un dans lequel il y a deux points selon une diagonale et l'autre dans lequel il y a deux points dans l'autre diagonale. Mais je pense que vous percevez du mouvement, n'est-ce pas ? Est-ce que vous percevez que l'un des points se déplace vers l'autre et, en même temps, dans le sens inverse, le troisième point se déplace vers le quatrième ? Alors, qui perçoit du mouvement vertical ? D'accord. Qui perçoit du mouvement horizontal ? Vous voyez, c'est à peu près moitié-moitié, pas tout à fait. Si vous faites attention, ou si vous attendez, tout simplement, vous allez voir que le mouvement change, et que ce qui était du mouvement vertical devient horizontal, et vice-versa. Je pense que vous pouvez en faire l'expérience maintenant. Si vous avez du mal, vous pouvez mettre votre main pour cacher deux des points, et à ce moment-là, vous allez voir le mouvement devenir, évidemment, c'est le seul qui est possible avec deux points, n'est-ce pas ? Et puis ensuite, ça va revenir à l'autre version. D'accord. Donc c'est une illusion intéressante qui a été utilisée, j'en parlerai pas directement aujourd'hui, mais qui a été utilisée pour parler de la bistabilité. C'est encore un exemple de bistabilité dans notre conscience. Hein. Mais Dan Dennett en utilise une version différente qui est due à Colers et von Grunow. Mais c'est le même principe. On va présenter un point bleu, et puis après un certain délai, on va présenter un point rouge. Et lorsque le délai est suffisamment court par rapport à la distance entre les points, on perçoit du mouvement. Mais alors, ce qui est particulier à l'illusion de Colers et von Grunow, c'est que le point change de couleur. Et dans la perception subjective, voilà ce qu'on perçoit. On perçoit un point bleu qui bouge, et puis au milieu, change de couleur et devient rouge. Et alors, Dan Dennett attire l'attention sur un paradoxe. Le point bleu change de couleur avant d'arriver à sa destination finale, où il est rouge, d'accord ? Mais ce moment où il change de couleur, donc il est entre le point de départ où le point est bleu et le point d'arrivée où le point est rouge dans le temps. Mais il n'a pu être calculé qu'après qu'on ait vu que le point est rouge, n'est-ce pas ? Si le point rouge n'apparaît pas, bah le point bleu ne bouge pas. D'ailleurs, il n'y a pas forcément besoin du changement de couleur, c'est vrai aussi pour l'illusion que je vous ai montrée auparavant. Pour percevoir que le point démarre, bah il faut attendre que vous ayez vu le deuxième point, sinon le point ne démarre pas du tout. Donc, votre conscience reconstruit l'histoire, n'est-ce pas ? Votre conscience est obligé de créer une représentation mentale, une de ces ébauches à la Dennett. La première ébauche, c'est il y a un point bleu, il ne bouge pas. Il y a peut-être un moment transitoire où vous percevez le point rouge à sa place. Et ensuite, votre cerveau reconstruit une histoire en disant le point bleu a bougé, il est devenu rouge. Et du coup, il est devenu rouge entre les deux. Entre les deux spatialement, mais aussi entre les deux dans le temps. Alors j'avais été tout à fait frappé par cette discussion de Daniel qui dit « le temps de la conscience n'est pas le temps physique, il doit y avoir des réécritures, et ici, le temps, si on pourrait appeler T2 au milieu où le point change de couleur, il a forcément été calculé après le moment où est apparu le point rouge, donc après le moment physique de T3, n'est-ce pas ? Au moment où on perçoit le point rouge arriver à la fin. Donc il y a une réécriture, une remise en ordre, forcément, lié au calcul du temps ici dans la tête du sujet. Alors, on ne va pas parler directement de cette illusion aujourd'hui, mais ça nous a inspiré dans nos recherches au laboratoire, et notamment avec Claire Sergent, avec Lionel Nakache, pour réfléchir à ces questions de temps dans la conscience. Et on s'est aperçu qu'il y avait peut-être quelque chose de similaire dans le domaine de l'espace de travail neuronal global. Je vous avais déjà présenté ce schéma, qui est paru dans TICS en 2006, dans lequel on voit un premier stimulus qui fait l'objet d'un traitement dans la tâche 1, donc qui progresse le long d'une voie non consciente, qui accède à l'espace de travail neuronal global, qui est diffusé, qui peut être diffusé à des systèmes moteurs, il y a une réponse motrice, et pendant ce temps-là, il n'est pas possible à un deuxième stimulus d'accéder à l'espace de travail neuronal global. C'est un goulot d'étranglement. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le deuxième stimulus doit attendre. Et après un certain temps, si l'espace de travail est disponible et si la mémoire est suffisante pour ce stimulus qui est passé, à ce moment-là, on pourra peut-être le récupérer. Donc le modèle fait des prédictions extrêmement précises sur la temporalité des événements ici. Il doit y avoir propagation du premier stimulus dans des aires sensorielles, puis accès au cortex préfrontal et au système de l'espace de travail neuronal global avec une représentation métastable, cette fameuse ignition, embrasement dont on a parlé au cours 3 hein, et au cours 4. Et puis, pendant ce temps-là, si on présente un deuxième stimulus, il va parcourir ses représentations sensorielles initiales, mais il va devoir attendre. Et soit il va devoir attendre longtemps et ensuite on va voir une ignition, un embrasement tardif, soit il va peut-être être complètement perdu, on ne va pas pouvoir le récupérer, sa mémoire est perdue et on va être simplement non conscient de ce deuxième stimulus. D'accord ? Mais dans tous les cas, il va y avoir un temps de latence pendant lequel on n'est pas conscient du deuxième stimulus. Alors, c'est ça qu'on a voulu tester dont je vais vous parler aujourd'hui sous forme de différentes expériences. Le premier phénomène, celui donc d'extinction, ici, donc collapse, c'est le phénomène de clignement attentionnel. Qu'est-ce que c'est que le clignement attentionnel? C'est un phénomène qui avait été décrit dès 1987 et consolidé en 92 par Raymond, Shapiro et Arnell. Si vous présentez une série, par exemple ici, de chiffres, et qu'au milieu, il y a des cibles qui sont des lettres, voilà, une première lettre qu'on appellera T1, une deuxième lettre qu'on appellera T2, eh bien, vous pouvez traiter la première lettre très facilement, par exemple, la conserver en mémoire, mais pendant une fenêtre temporelle assez vaste, après la présentation de la première lettre, vous ne percevez pas la seconde. Vous avez beaucoup de mal à percevoir la seconde. Ici, vous avez donc le pourcentage de rapport correct de la lettre T2, étant donné que vous avez rapporté correctement la lettre T1. Et vous voyez que selon l'intervalle entre les lettres, tout ceci est présenté très rapidement, hein, 10 lettres par seconde, donc tous les 100 millisecondes ici. Vous voyez que à 200, 300, 400 millisecondes, il y a une sorte de fenêtre de creux ici, où on n'arrive pas à rapporter la deuxième lettre. Elle est rendue invisible. Et il y a eu pas mal de recherches. Avec Claire Sergent, on a étudié ce phénomène sur le plan psychologique, je vous montrerai dans une seconde, mais on perd vraiment une conscience totale de la deuxième lettre. On a l'impression qu'il n'y en avait pas. C'est aussi simple que ça. Il n'y avait pas de deuxième lettre. D'accord. Les chercheurs ont étudié quel est le minimum qu'il faut faire sur la tâche T1 pour qu'on obtienne ce clignement attentionnel, cette perte d'information sur le stimulus T2. Et ce qui est très intéressant, c'est exactement comme prédit le modèle de l'espace de travail neuronal global, il suffit de prendre conscience de T1 pour obtenir un clignement attentionnel pour T2. Il n'y a pas forcément besoin de cliquer ou de répondre. Il suffit juste que le sujet enregistre cette représentation en mémoire, en conscience. Voilà. Il le perçoit consciemment. Et en particulier, dans cette recherche de Neuwenstein et collaborateurs, c'est le même stimulus exact, T1, qui est présenté au seuil de conscience, de sorte que de temps en temps, il est vu, de temps en temps, il n'est pas vu. D'accord. Quand il est vu, ça induit un clignement attentionnel. Quand il n'est pas vu, le sujet perçoit la lettre T2 sans aucune difficulté. Donc c'est vraiment juste l'accès à la conscience qui crée ce clignement attentionnel. C'est un phénomène assez puissant, hein, c'est une illusion, pas toujours complète. Il arrive qu'on puisse voir T2, ça dépend du temps de traitement de T1. Il y a une autre recherche très jolie de Jolicoeur qui a montré que plus le temps de traitement de T1 est long, plus le clignement attentionnel est long. Donc il y a vraiment une fenêtre qui est occupé par T1 et qui empêche de percevoir T2. Alors, d'autres recherches, ici notamment le travail de Edward Wuhl, ont montré qu'il y avait non seulement une suppression, mais un délai et une diffusion de l'accès conscient pendant le clignement attentionnel. La recherche est sympathique, vous voyez, c'est avec Nancy Kanwisher, qui est toujours très, très, très maligne dans ses conceptions expérimentales. Et là, vous avez une série de lettres. Donc, on ne voit que des lettres, mais il y en a deux qui sont entourées d'un cercle, et c'est celle-là que vous devez rapporter. D'accord ? Donc T1 et ensuite T2, et bien sûr, on fait varier l'intervalle entre T1 et T2. Et pour ce qui est de T1, vous n'avez aucune difficulté à rapporter la bonne lettre. Donc comme elles sont très proches dans le temps, et c'est espacé de 83 millisecondes maintenant, il arrive, la plupart du temps, vous rapportez la bonne lettre, qui est ici marquée par 0, T1, et puis de temps en temps, vous rapportez la lettre d'avant ou la lettre d'après. D'accord. Mais toutes ces courbes sont superposées, ça veut dire que ça ne, la performance sur la première tâche ne dépend pas de la présence d'une deuxième tâche T2. D'accord. Ça, c'est la première tâche. Et vous avez cette courbe assez précise d'extraction d'une information dans le temps. Donc pour une première tâche, vous êtes très bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour la deuxième tâche ? D'abord, en noir ici, vous avez la performance pour ce qui est de T2, c'est-à-dire le pourcentage de réussite. Et vous retrouvez la courbe que je vous montrais auparavant, clignement attentionnel, on a du mal à percevoir T2, surtout lorsqu'il est présenté dans un intervalle court après T1. Il peut y avoir, j'en parlerai pas, il peut y avoir ce qu'on appelle dans la littérature lag one sparing, c'est-à-dire un léger bénéfice si ça vient juste après, si les deux lettres sont consécutives. En fait, on pense que c'est la même fenêtre qui s'ouvre et qui permet de percevoir les deux lettres comme un seul objet de pensée, en quelque sorte. Mais sinon, vous voyez ici ce clignement attentionnel très fort. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour les autres lettres ? Vous voyez que on peut regarder chacune de ces courbes ici. Par exemple, regardons la courbe qui est marquée SOA2. Ça veut dire qu'il y avait juste une lettre entre les deux et ensuite la lettre cible. Alors, vous voyez que la lettre cible est très très mal perçue, c'est la courbe en orange ici, mais si le sujet rapporte une lettre, il lui arrive très souvent de rapporter la précédente, pas du tout la suivante. D'accord. Et inversement, ici vous voyez peut-être à SOA4, donc 4, un intervalle de 4 lettres entre T1 et T2, et bien vous voyez qu'on commence à... Alors, quelle est la bonne courbe ? SOA4, c'est les triangles, voilà. On voit ici, on commence à rapporter un petit peu la bonne lettre, mais on n'est pas, on va décaler la courbe vers la lettre précédente ou vers la lettre suivante. Donc, il y a vraiment une sorte de creux de conscience, et dans cette période-là, les informations sont diluées dans le temps, décalées dans le temps, pour ne pas pouvoir être perçues pendant cette fenêtre temporelle où on est occupé par la première tâche. On va voir que ce délai, cette dilution, cette suppression, on peut les voir aussi dans l'activité cérébrale correspondante. On a commencé à faire des expériences dès 2005 avec Claire Sergent. Je remonte à cette expérience Princeps parce qu'elle est vraiment très belle et elle était déjà extrêmement diagnostique. On avait donc, dans le cadre de la thèse de Claire Sergent, on avait présenté des chaînes de caractères. La première était une chaîne de type OXXO ou l'inverse, et il fallait dire laquelle c'était. Et ensuite, avec un délai variable, on présentait un mot ou pas de mots du tout, c'est le contraste qu'on allait suivre avec l'activité cérébrale en EEG ici. Pour bien indiquer à quel moment il fallait faire attention, on entourait ce mot avec des carrés comme ça, et le sujet devait essayer de le voir, mais il était occupé par cette première tâche. Et on avait introduit plusieurs modifications intéressantes. D'abord, on pose tout de suite la question au sujet. Donc vous voyez qu'on commence par la question sur la cible 2. Est-ce qu'il y avait un mot ou est-ce qu'il n'y en avait pas ? D'accord. Et puis, on lui demande de rapporter la visibilité de T2. On lui demande de mettre ça sur un curseur, ici, où il peut dire, il n'y avait rien du tout, je pense qu'il n'y avait pas de mot, ou bien, je pense qu'il y avait un mot. Mais il y a plein d'essais où il y a un mot, et le sujet ne va pas rapporter la présence d'un mot. Et en fait, on montre qu'il ne fait pas la différence entre la présence ou l'absence d'un mot dans un grand nombre des essais. Donc, le fait d'être occupé par la première tâche empêche de voir ce deuxième mot. Alors, on le voit très très bien dans l'analyse du comportement des sujets. Ici, donc, vous avez le curseur du sujet qui est capable de dire il y a un mot ou il n'y en a pas. Lorsque il y a un mot, on a un pourcentage de rapport assez élevé. Et vous voyez qu'il y a un creux dans les rapports vus. Et ce n'est pas juste un déplacement de la courbe qui dit « je vois moins bien » ou quelque chose comme ça. C'est l'augmentation considérable des rapports pas vu du tout, visibilité zéro, il n'y avait pas de mots du tout sur l'écran. Donc c'est vraiment une bascule, tout ou rien. Une fois plus, on retrouve ici cette idée que la conscience est bimodale, qu'elle bascule dans deux états possibles. On avait vu cela pour le masquage. Ici, vous avez le même phénomène ici pour le masquage en fonction du délai entre un chiffre et les lettres qui l'entourent. Et ici, on le retrouve pour le clignement intentionnel, cette bascule tout ou rien. Alors, avec les potentiels évoqués, on a pu enregistrer donc les ondes cérébrales évoquées par un stimulus pas vu en soustrayant les essais où il était simplement absent. Donc en faisant cette soustraction, on enlève toute l'activité évoquée par la première tâche, par les masques, etc. On ne garde que la différence entre un mot présent et un mot absent. Mais on va faire la différence entre mot présent mais pas vu et mot présent mais il est vu. Donc en haut, traitement non conscient du mot et en bas, traitement conscient du mot. D'accord ? Et c'est exactement le même stimulus, au même délai, etc. Alors je mets en route ce film qui avait été créé à l'époque avec Sylvain Baillet. C'est à prendre avec des pincettes parce que c'est une reconstruction de l'activité cérébrale sous forme de source. Donc vous savez qu'à partir de l'EEG, ce n'est pas d'une précision extraordinaire. Hein. Mais néanmoins, on voit très très bien ici une activité bilatérale du cortex occipital vers 100 millisecondes. Et si vous regardez, c'est exactement la même activité que ce soit vu ou pas vu. Donc le stimulus rentre, c'est normal. Les processeurs visuels travaillent, sont capables de faire leur travail, même si plus tard le sujet va dire « j'ai rien vu du tout ». Si on continue ce film, je vais aller vers 170 millisecondes, il y a la fameuse N170, vous voyez qu'il y a une... Maintenant, le traitement est beaucoup plus latéralisé à l'hémisphère gauche, il active ce qu'on appelle l'aire de la forme visuelle des mots, qui reconnaît l'orthographe des mots, la chaîne de lettres, et vous voyez, toujours ce traitement absolument identique entre conscient et non conscient, pratiquement pas de différence. Alors, je vais continuer le film, et vous allez voir que maintenant, on va commencer à avoir une divergence. Il y a beaucoup d'activité dans le cortex temporal, mais elle diminue considérablement pendant un certain temps, et là, on commence à voir un surcroît d'activité dans le cas conscient par rapport au cas non conscient. Et ce surcroît d'activité, vous voyez, il est non seulement dans le lobe temporal, mais il commence à envahir les régions du cortex frontal inférieur, ici, et du cortex pariétal inférieur. Et si on continue le film, ça devient vraiment une différence très importante qu'on peut voir ici, par exemple. On a l'impression qu'il n'y a presque plus d'activité, ça n'est pas vrai, je pense que c'est un artefact de reconstruction des sources, mais vous voyez que l'activité est infiniment plus intense et il y a cet embrasement très large dans le cas conscient par rapport au cas non conscient. Et puis, si je continue, un phénomène très intéressant, mais qui avait déjà été écrit par Steve Luck, vous avez vu qu'il y a encore de l'activité ici, dans le cortex temporal, lié au traitement du mot non conscient, qui se prolonge jusqu'à 380-400 millisecondes, ce qu'on appelle la N400 à la surface du scalp, qui avait été observée par Steve Luck de façon massive, elle peut tout à fait être encore présente sans qu'il y ait conscience de la part du sujet. Mais voyez la différence entre les deux ici. Dans le cas non conscient, l'activité est confinée aux régions temporales. Dans le cas conscient, elle a été amplifiée et elle a gagner accès à un espace beaucoup plus grand, notamment dans le cortex préfrontal et dans les deux hémisphères. On peut prolonger le film encore un petit peu. Vous voyez que l'activité que se prolonge en bas est beaucoup moins en haut. Donc là, il y a vraiment une durée d'activation, une métastabilité dont on a parlé dans les cours précédents. Alors, je vous montre les mêmes choses sous forme de cartes, qui nous permet de les regarder plus calmement. Hein. Voilà donc la carte au niveau du scalp. C'est les vrais enregistrements de potentiel évoqués au moment de la P1. Vers 100 millisecondes, et vous avez vraiment des topographies rigoureusement identiques pour les cas vus ou pas vus. Même la N1, vers 180 millisecondes, ici, est presque rigoureusement identique entre les deux conditions. Et cette fameuse N400, là, liée à un traitement sémantique des mots, vous voyez qu'elle est présente, elle n'est pas identique, mais elle est présente dans le cas non conscient. Maintenant, ce qui est caractéristique, c'est vers 270 millisecondes qu'on commence à avoir cette très forte divergence, amplification beaucoup plus grande dans le cas vu que dans le cas pas vu, une négativité N3 qui est presque uniquement présente dans le cas vu, et aussi deux autres événements qui sont presque tout ou rien dans le cas vu par rapport au cas pas vu, la P3A, ici antérieure, au niveau de la ligne médiane du cortex frontal, et la P3B, dont je vous ai beaucoup parlé dans ce cours, qui est l'une des signatures de la conscience, pas toujours présente, mais présente lorsque le sujet doit rapporter les stimuli. Voilà. Donc, vous avez des événements tardifs, toujours cette idée que la conscience est tardive, largement tout ou rien, avec une bascule très rapide entre les deux états, dans le cas conscient par rapport au cas non conscient. On l'a pu le voir d'une autre manière, c'est une autre figure de l'article ici, comme on a le curseur du sujet qui nous dit « j'ai bu parfaitement, j'ai pas vu du tout, je pense qu'il n'y avait pas de mots », ou bien tous les états intermédiaires. Ici, on peut classer en fait les essais en quatre catégories. Vous voyez, les essais très bien vus, les essais vus mais avec une perception moins bonne, les essais intermédiaires et puis les essais pas vus du tout. Et lorsqu'on fait ce travail, on s'aperçoit que certaines ondes sont largement continues en fonction du curseur, et d'autres sont au contraire beaucoup plus discrètes. Vous voyez ici, il y a une sorte de variation continue de la N2, alors qu'il y a un caractère discret de la N3 qui est présente que dans les deux états d'en haut et pas dans les deux états d'en bas. Même chose pour la P3A et dans une certaine mesure pour la P3B. Vous voyez qu'il y a d'autres événements ici qui se produisent, mais la P3B elle-même est très largement spécifique de l'état conscient. Voilà. Donc on peut, dans une certaine mesure, trouver des événements tout ou rien, et en tout cas une bascule vers 270-300 millisecondes, vers des états tout ou rien. Et on avait conclu ici que la perception consciente dépend à la fois d'une négativité et puis de positivité plus tardive. C'est à peu près l'état de la littérature. Vous vous souvenez que la semaine dernière, on avait discuté le fait que les ondes positives peuvent disparaître s'il n'y a pas de rapport conscient, mais que les négativités tardives restent, sont métastables, présentent un caractère tout ou rien, etc. C'était le cours de la semaine dernière. Ici à droite, vous voyez une reconstruction des sources, mais aussi dans le temps. Donc ici, par exemple, dans le cortex temporal moyen, vous voyez très bien que vers 200 millisecondes, il y a une activation très forte, et en fait aussi forte dans le cas conscient que dans le cas non conscient. Hein. La courbe gris léger, c'est le non conscient, la courbe gris noir, ou noir, c'est le cas conscient, et vous voyez que ça commence exactement de la même manière, mais ensuite, il y a un caractère soutenu pour le cas conscient uniquement. Et puis ici, vous voyez assez nettement, avec un peu de bruit dans les données toujours, hein, mais vous voyez quand même nettement une activation spécifique de l'état conscient dans le cortex frontal dorsolatéral, frontal inférieur et le singulaire antérieur, ici encore plus tardif. Donc on avait déjà vu dans 2005 ces signatures d'une divergence très rapide entre état conscient et non conscient durant le clignement intentionnel. Je vous rappelle que l'invisibilité ici est causée uniquement par le fait que vous êtes occupé à faire autre chose. Sinon, le stimulus, il est extrêmement visible. C'est un mot qui est présenté pendant une durée considérable. Si vous n'êtes pas distrait par la première tâche, vous voyez tout. Vous voyez parfaitement qu'il y a un mot. Mais parce que vous êtes distrait par la première tâche, ça empêche de voir le mot qui est présenté. Donc, on était dans ce cas d'une représentation qui disparaît. Je pense que vous avez tout à fait bien vu ces étapes initiales de traitement du mot qui sont parfaitement préservées. Et ensuite, un collapse vers un état de non-activité qui ne permet pas au sujet de rapporter la présence d'un mot. Alors maintenant, on va s'intéresser à l'autre situation, le délai, d'accord ? L'embrasement différé. Dans certaines conditions, si le sujet arrive à rapporter le stimulus, et après tout, c'était le cas aussi dans certains essais du clignement intentionnel, eh bien, à ce moment-là, on doit avoir un délai. On ne peut pas percevoir immédiatement le stimulus, mais il doit être considérablement différé. Alors, on a commencé à tester cette idée en s'appuyant sur un phénomène psychologique qui avait été décrit auparavant, qui s'appelle « the psychological refractory period », la période psychologique réfractaire. C'est un phénomène massif, plus massif en fait que le clignement intentionnel, presque omniprésent, dès que vous essayez de faire deux tâches en même temps, ce qu'on appelle « dual task », « dual tasking okay. ». Donc, on ne peut pas, la plupart du temps, faire deux tâches en même temps. On verra peut-être les limites de ça, mais pour l'instant, donc, je vous présente un petit peu la caricature de ce qui se passe. Imaginez que vous avez un premier stimulus, et après un long temps de traitement, vous donnez une réponse 1, peut-être ça prend 500 millisecondes, typiquement, 400, 500 millisecondes au minimum. Et puis, je vais vous présenter un deuxième stimulus, et lui-même, il va falloir 300, 400, 500 millisecondes pour obtenir une deuxième réponse. Si les deux sont espacés dans le temps, pas de problème. Et c'est ce qu'on voit ici, il y a un temps de réponse rapide au stimulus 2. Je vais vous expliquer ce diagramme dans un instant. Maintenant, je fais varier le moment où le stimulus 2 est présenté. D'accord ? Donc s'il est présenté ici, il n'y a pas d'interférence. Maintenant, si je rapproche le stimulus 2 du stimulus 1, je vais observer que le temps de réponse à ce deuxième stimulus est massivement ralenti. Et donc, ce que vous voyez ici sur la droite, c'est le temps de réponse au stimulus 1 et le temps de réponse au stimulus 2 en fonction de l'intervalle entre les deux. D'accord ? Et vous pouvez percevoir le temps de réponse au stimulus 2 comme la différence entre cette diagonale, qui est le moment où le stimulus 2 est présenté, et le moment où la réponse du sujet survient. Et vous voyez que lorsqu'on rapproche les deux, eh bien, la réponse 2 doit attendre considérablement, et il y a un délai absolument massif qui est induit ici, c'est la flèche verte devient beaucoup plus grande, vous êtes massivement ralenti par le fait de devoir faire deux tâches en même temps. Et en même temps, tout n'est pas ralenti. vous voyez qu'ici, il y a deux courbes. Ces deux courbes, c'est un ralentissement qui est causé par une étape perceptive de traitement de l'information. Par exemple, je crois qu'ici, la tâche, c'était, vous voyez des chiffres, vous voulez dire s'ils sont plus grands ou plus petits que 5, mais ici, ils sont présentés sous forme de mots ou ils sont présentés sous forme de chiffres, et on sait qu'en sous forme de mots, vous êtes plus lent que sous forme de chiffres. D'accord ? Donc, c'est, ici, vous avez la réponse aux chiffres, aux mots, et ici, la réponse aux chiffres. D'accord ? Ça crée un ralentissement. Oui, mais pendant cette période d'attente, ce délai disparaît. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous êtes en train d'attendre que la tâche 1 soit finie, mais en réalité, les étapes perceptives de la tâche 2 peuvent déjà se réaliser. Et donc, ce délai ici est absorbé. On parle d'absorption parce que vous avez le temps de régler ce problème, de savoir si c'est un chiffre ou un mot, et le mot prend un peu plus de temps que le chiffre. Tout ceci peut être fait de façon non consciente pendant la tâche 1. Et ce qui ne peut pas être fait, par contre, pendant la tâche 1, c'est l'étape centrale de décision ou de décider quelle réponse vous faites. Et ça, ça crée un délai massif. Alors, je vais vous expliquer ça de façon meilleure, peut-être, sur une tâche effective. On a beaucoup étudié ce phénomène avec Mariano Sigman, quand il était au laboratoire. Et donc, par exemple, on engage le sujet dans une tâche visuelle. Il s'agit de comparer un chiffre avec 5, dire si c'est plus grand ou plus petit que 5. Et vous allez répondre avec la main droite. Et puis, en même temps, ou avec un délai, vous allez recevoir un son et vous devez dire s'il est aigu ou grave et vous répondez avec la main gauche. Et alors, on a tout fait pour que les choses soient faisables en même temps. On a présenté les stimuli dans deux modalités différentes. Une des réponses est faite avec une main, l'autre réponse est faite avec l'autre main. Les hémisphères qui commandent ces mains sont différents. Et pourtant, on observe une collision massive, un ralentissement massif entre ces deux tâches. Voilà un peu la théorie derrière cette idée, et voilà les temps de réponse des sujets. Quelle est la théorie ? C'est que si je présente les stimuli pendant un délai, avec un délai très long, il n'y a aucune interférence particulière. Donc vous exécutez une tâche, puis l'autre, sans interférence. Mais si vous raccourcissez maintenant le délai, vous allez observer cette interférence, et donc le temps de réaction 2 se courbe comme ça, ça veut dire qu'il se ralentit. Vous voyez que le temps de réaction 1, lui, n'est jamais affecté. Il n'est pas affecté, on fait la tâche 1 tout à fait normalement, on se concentre dessus, on arrive à se concentrer dessus. Mais la tâche 2 doit attendre, et la théorie, c'est qu'est-ce qui doit attendre exactement ? Eh bien, c'est la composante consciente, centrale, de la tâche 1 et de la tâche 2 qui entre en collision. Donc c'est uniquement cette composante centrale qui va être ralentie. C'est ce qu'on voit en bleu clair ici. La composante perceptive initiale n'a pas de raison de ne pas se déclencher immédiatement après la présentation de la cible 2. Et la composante de réponse se déclenche tout de suite après avoir fini l'étape de décision. Il y a des étapes motrices d'exécution de la réponse qui sont non conscientes, qui peuvent s'exécuter en parallèle avec le reste. La seule collision, c'est la collision de l'étape centrale qu'on a indiquée C ici, qui est votre décision consciente, qu'est-ce que je dois faire exactement. Alors, il y a beaucoup de travaux sur ce sujet, je ne vais pas tous les présenter, mais présenter cette expérience où on a réussi à utiliser les potentiels évoqués et l'IRM. Et les deux, en fait, sont informatifs sur ce qui se passe dans cette collision consciente. Ici, vous avez quelque chose de très simple. Vous avez donc le stimulus visuel, le stimulus auditif, et chacun d'eux évoque une négativité initiale entre 100 et 200 millisecondes, type N170, et ensuite chacun d'eux évoque une P300 qui a la chance d'être légèrement différente, sans doute parce qu'on demande une réponse à main droite versus une réponse à main gauche. Donc la topographie n'est pas exactement la même pour ces événements. Ce qui fait qu'on a 4 topographies qu'on peut analyser ici, qu'on peut identifier dans des essais avec un seul stimulus, et ensuite on va appliquer ces topographies à chacun des essais de chacun des sujets, et on va voir qu'est-ce qui est décalé ou pas. On fait une régression multiple, pour ceux qui s'intéressent pour les détails, on fait une régression multiple avec ces 4 topographies sur les topographies qui sont observées à chaque instant. Et donc, qu'est-ce que vous voyez ici ? Pour la première, les étapes perceptives de la tâche 1, tout est absolument aligné dans le temps, vers à peu près 170 millisecondes après la présentation de T1, survient cette étape de façon absolument mécanique, toujours au même moment. Même chose pour cette étape centrale, et donc une décision consciente de la part du sujet vers 300 millisecondes ici, un peu plus. Vous voyez que chez tous les sujets, quel que soit le délai entre les stimuli, elle survient toujours au même moment. Ça, c'est la tâche 1. Autrement dit, la tâche 1 s'exécute en priorité et sans modification, quel que soit le délai par rapport auquel apparaît le stimulus auditif. Maintenant, regardons le stimulus auditif. Ces étapes perceptives s'exécutent exactement au moment où elles le doivent, c'est-à-dire à 0, 300, 900 ou 1200 millisecondes ici. Elles sont en ligne avec la présentation du stimulus. Les étapes tardives, par contre, sont décalées dans le temps. Je pense que vous pouvez le percevoir parce qu'il n'y a pas le même délai entre ces deux-là qu'entre ces deux-là. On va le voir mieux sur la diapositive suivante où je vous montre des tranches de temps. Et donc voilà la tranche de temps pour les événements sensoriels de la tâche 1. Aucun changement en fonction du délai. Pour les étapes centrales de la tâche 1, aucun changement en fonction du délai. Pour les étapes perceptives de la tâche 2, vous voyez que chaque événement sensoriel qui est représenté par un rectangle ici est suivi au bon moment, immédiatement, avec le même délai d'un traitement sensoriel qui est donc en ligne avec le stimulus extérieur, pas de délai. Mais par contre, l'étape centrale de la tâche 2 est différée, c'est la courbe bleue ici, bleu foncé, elle ne vient pas au même moment que les autres. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il y a aussi des ondes centrales au moment où on finit la tâche 1. Et là, on dit, bah, alors, est-ce que j'ai un stimulus à traiter ou pas? Ah non, je dois attendre et je vais le retrouver par la suite. D'accord. Donc vous voyez que lorsqu'il y a un délai très long, on observe quelque chose de très classique. Une onde sensorielle, par exemple ici en rouge, suivie d'une P300 un peu plus tardive, vers 300 millisecondes. Mais lorsqu'on rapproche les stimuli, l'onde sensorielle est toujours là. L'onde tardive, la positivité tardive, est très largement décalée dans le temps. On est en retard. D'accord. Alors ce retard, là c'est exactement ce que je viens de vous expliquer, hein. Ce retard, on peut aussi le mesurer simplement directement en regardant ces délais. Donc je compare ici les prédictions avec les délais observés des composantes des potentiels évoqués, et vous voyez que les résultats collent parfaitement avec les prédictions. Le temps de réponse est ralenti, ça se traduit par cet aplatissement ici, le temps de réponse devient constant quel que soit le moment de présentation du stimulus, et ce n'est vrai que de l'étape centrale de la tâche 2, autrement dit ce qui est en bleu clair ici. L'étape perceptive de la tâche 2, elle est représentée en vert ici, vous voyez que en rouge ici, elle est représentée, elle survient exactement au moment où le stimulus apparaît sur l'écran. J'espère que ce n'est pas trop compliqué. Retenez qu'il y a des étapes perceptives qui prennent à peu près 200 millisecondes qui surviennent immédiatement dès que le stimulus apparaît, n'ont pas besoin d'attendre, qui surviennent en parallèle. Et puis, il y a des étapes centrales qui, elles, sont considérablement retardées. Mais on parle d'un phénomène considérable, un retard de 200 à 300 millisecondes. Donc, c'est un retard très important. Alors, c'est tellement important qu'on peut le mesurer en IRM fonctionnel. Et là, c'est peut-être pour les étudiants dans la salle qui utilisent l'IRM. On dit souvent, l'IRM, il n'y a pas de résolution temporelle, on n'est pas capable de voir le déroulement dans le temps. Mais dans cet article, avec Mariano Sigman et dans d'autres, on a montré que si il y a une très bonne résolution dans le temps, il faut aller la chercher. En fait, lorsque une activation neuronale survient, il faut effectivement plusieurs secondes pour que monte le signal d'IRM fonctionnel, qu'on appelle le signal BOLD. Oui, mais il monte avec une certaine raideur, et donc si les événements sont décalés dans le temps de 200 millisecondes, eh bien la courbe de réponse BOLD en IRM, même si elle survient 3 ou 4 secondes plus tard, elle va être décalée elle également. Et on a des astuces pour mesurer finement ce décalage. On peut simplement regarder à quel moment elle monte, bon. Mais nous avions utilisé une astuce ici qui était de modéliser cette réponse BOLD assez lente, comme ça, sur plusieurs secondes, par une fonction sinus et une fonction cosinus. D'accord. Et quand vous faites ça, vous pouvez utiliser les poids de ces fonctions sinus et cosinus, vous pouvez calculer l'arc tangente et vous obtenez la phase de la réponse qui est traduit en fait le délai de la réponse. D'accord. Alors au moins pour l'arrivée de ce signal, vous pouvez mesurer des délais qui sont de l'ordre de 100, 200, 300 millisecondes sans grande difficulté. Ici on parle de délais qui sont importants. Donc l'IRM mesure des délais. Et c'est ce que vous voyez ici. Alors cette fois-ci, l'image est très précise sur le plan spatial parce que l'IRM mesure très finement chaque point de l'espace. Et pour chaque point de l'espace, on peut regarder quel est l'effet de ce SOA, donc ce décalage entre T1 et T2, ce décalage entre les deux événements sensoriels, auditifs et visuels. Et vous voyez ici que le cortex visuel y répond instantanément parce que le stimulus est présenté toujours à zéro, alors que le cortex auditif y répond avec un décalage temporel qui se mesure en secondes ici, qui correspond exactement au décalage temporel qu'on a introduit dans le stimulus. Le stimulus auditif vient avec un délai entre 0 et 1,2 secondes qui se reflète exactement dans l'activation du cortex auditif ici. Puis vous voyez qu'on a des phénomènes qui sont un petit peu différents dans d'autres régions. Par exemple, dans cette région ici, vous voyez clairement une représentation du temps de réaction des sujets. D'accord. C'est logique parce qu'il est en train de répondre avec... alors ça doit être sa main gauche, là, donc c'est son cortex droit qui s'active et on voit un reflet du temps de réaction du sujet. Ici, vous avez une représentation qui vous montre quelles régions ont cet effet linéaire et quelles régions ont cet effet non linéaire. Et c'est l'effet non linéaire qui va nous intéresser. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Ceux que ça intéresse vraiment iront voir l'article. Hein. Mais il est possible, sur cette base-là, de trier les régions cérébrales en régions qui ont différents phénomènes dynamiques. Voilà. Et c'est ce qui a été fait ici par Mariano Sigman en représentant donc pour chaque voxel, pour chaque point dans l'espace du cerveau, la composante linéaire et la composante non linéaire de son délai de réponse. Et vous voyez qu'on arrive à une dissection très fine de différents types de régions, des régions qui répondent à la tâche visuelle et qui donc ne dépendent pas du délai de la présentation auditive, des régions qui dépendent strictement linéairement avec une pente de 1 de la présentation du stimulus auditif, et donc ça on voit très bien ici les aires auditives, et puis des régions qui ont cette non-linéarité, autrement dit qui ont ce ralentissement spécifique au moment où il y a une collision entre les deux stimuli et on est ralenti pour la deuxième tâche. Donc on les voit ici, notamment dans des régions, vous voyez souvent c'est pariétal et frontal en même temps, ici par exemple les deux cortex pariétaux, et il peut y avoir des non-linéarités supplémentaires liées au fait qu'au moment de la collision, quand vraiment les deux stimuli surviennent en même temps, le cerveau a un problème supplémentaire qui est d'arriver à se maintenir focalisé sur la première tâche et ne pas se laisser distraire par la seconde. Donc on voit des activations supplémentaires. Voilà. Donc, sans rentrer dans le détail, nous avions vu ici qu'il y a différents réseaux pariétofrontaux qui jouent un rôle dans cette collision, qui entrent en collision, et on peut mesurer ce délai de collision avec l'IRM fonctionnel. Alors, je vous ai montré donc deux phénomènes. Hein. Un phénomène dans lequel il y a le clignement attentionnel, on perd toute conscience parce qu'on est en train de faire autre chose, et puis un phénomène qu'on appelle la période psychologique réfractaire, où on est retardé. Et on s'est posé la question avec Sébastien Marty, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir les deux dans la même manip, les deux phénomènes en même temps. Après tout, ça devrait survenir. Soit vous n'êtes pas conscient du tout, soit si vous êtes conscient, vous allez être en retard. D'accord ? Alors, on a créé une expérience pour étudier ça, toujours un peu la même idée. Il y a un flux visuel parmi lequel il y a un stimulus auditif qui survient. Le stimulus auditif, vous devez le traiter en premier. C'est aigu ou c'est grave. Le stimulus visuel vient un petit peu plus tard, avec un délai variable, et on va voir s'il y a une collision entre les deux. Et on fait donc varier le délai entre l'auditif et le visuel. Au passage, des gens comme John Duncan, par exemple, avaient dit on peut pas avoir de clignement attentionnel entre des stimuli de modalités différentes. Dans ce cas-là, ça marche pas. Ce n'est pas vrai. Même avec des stimuli de modalités différentes, on observe les deux phénomènes de période psychologique réfractaire et de clignement attentionnel. Ici, vous voyez le temps de réaction. Je l'ai présenté sous une forme qui est peut-être plus intuitive. C'est le temps de réaction mesuré par rapport au moment où apparaît le stimulus T2, ici. Donc, vous voyez qu'il se ralentit considérablement, mais c'est le même phénomène que tout à l'heure, hein. C'est la période psychologique réfractaire, il se ralentit considérablement quand il y a une collision, c'est-à-dire quand le délai entre T1 et T2 est faible. Voilà. Alors que le temps de réponse à T1 est absolument constant. Donc ça, c'est la période psychologique réfractaire, c'est le phénomène le plus facile à obtenir. Mais dans les conditions de cette expérience, on a aussi obtenu un clignement attentionnel, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas toujours à répondre à T2. Et ici, vous voyez qu'on arrive presque toujours à répondre à T1, mais il y a bon nombre d'essais, particulièrement lorsqu'on entre en collision ici, où on ne voit plus T2 du tout et on ne répond pas parce qu'on a l'impression qu'il n'y avait pas de stimulus T2 du tout auquel il fallait répondre. D'accord. Donc une fois qu'on a les deux phénomènes dans la même expérience, eh bien on peut utiliser nos outils de décodage pour regarder qu'est-ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là. Et ici, je vous montre donc une représentation avec laquelle vous êtes peut-être familier maintenant, qui est cette matrice de généralisation à travers le temps qui nous montre comment on décode la trajectoire de l'activité cérébrale. Donc vous avez le temps sur l'axe des X et aussi sur l'axe des Y. On entraîne ici un décodeur à décoder les étapes de la tâche 1. Pour ce faire, on compare des essais où le sujet a dû répondre au son, qui était en premier, versus d'autres essais où il se contentait d'écouter passivement le même son sans devoir répondre. Et donc on voit toutes les étapes de décision et de réponse de la tâche 1. Et vous voyez que le déroulement de la tâche 1, qui est représenté par la diagonale ici, se déroule presque exactement de la même manière que vous ayez ou pas un deuxième stimulus visuel qui survient à des délais différents. Donc quand vous ayez un délai très court ou un délai plus long, ou même que vous disiez « j'ai rien vu du tout », eh bien, vous avez pratiquement le même déroulé temporel de la tâche 1. Toujours la même idée, hein, vous arrivez à vous concentrer, vous pouvez traiter la tâche 1 normalement. Qu'est-ce qui se passe pour la tâche 2? Je vais revenir un petit peu, vous voyez qu'il y a de légères différences, je vais y revenir dans la diapo suivante ici. Mais qu'est-ce qui se passe pour la tâche 2? Vous voyez quelque chose de très différent. Une dilution et un délai de la tâche 2 par rapport à la tâche 1 et une disparition presque complète des étapes tardives ici, lorsque le sujet dit « j'ai rien vu ». D'accord. Je répète comment c'est fait. On entraîne un décodeur à dire « il y avait une lettre cible » ou alors « il n'y en avait pas ». Donc on voit à long délai, on voit très très bien le décours temporel d'une tâche normale hein, qui à partir de 200 millisecondes ici commence à faire la différence entre une lettre cible ou pas. Et on voit que ces étapes non seulement sont diminuées, mais sont différées dans le temps. Il faut regarder la courbe noire ici du milieu, c'est le moment où vous avez le pic de décodage. Et le pic de décodage se décale par rapport à la diagonale. Ça veut dire que le décodeur qui marchait à 500 millisecondes, maintenant il marche plutôt à 600 ou à 700 millisecondes. Ces étapes-là ont été décalées dans le temps. D'accord ? Ce qui survenait auparavant à 500 millisecondes survient pendant la collision mentale, plutôt vers 600 ou vers 700 millisecondes. On le voit d'une autre manière ici. Je vous montre des décodeurs qui ont été entraînés à différents moments, 200, 300, 400, 500, 600 millisecondes. Et pour chaque décodeur, je peux regarder comment il généralise à tous les temps de l'expérience. Donc ici, c'est le temps par rapport à la présentation du stimulus T1. Et vous voyez que donc un décodeur précoce répond précocement, un décodeur plus tardif répond plus tardivement, c'est la fameuse diagonale qu'on voyait dans la diapo précédente. Et pratiquement toutes ces étapes se déroulent de façon normale, que vous ayez ou pas un deuxième stimulus qui est en train d'attendre. La tâche T1 se déroule normalement. Les étapes précoces sont essentiellement non affectées. Vous voyez qu'il y a une très légère compression des étapes tardives. Le début est absolument identique dans toutes les conditions, mais la fin de ces étapes s'est raccourcie un petit peu lorsque le délai est court. Donc quelque part, il y a quelque chose dans le système qui sait qu'il y a un stimulus qui est en train d'attendre et qui raccourcit un petit peu le traitement, n'est-ce pas ? Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne se produit absolument pas dans les essais où il y a un clignement intentionnel. Quand il y a un clignement intentionnel, vous n'avez pas vu le stimulus 2, à ce moment-là, il n'y a aucun changement par rapport au cas où il n'y a pas de stimulus du tout. Voilà. Donc, cette compression est liée au fait que vous êtes conscient, vous avez commencé à traiter le stimulus 2. Alors, regardons maintenant ce qui se passe pour le stimulus 2. Là, vous voyez que c'est complètement différent. Donc, vous avez les effets des différents délais ici. Vous voyez que les décodeurs précoces continuent de faire leur travail de façon strictement insensée, dans ces étapes de traitement précoce, détecte. C'est intéressant, détecte qu'il y a une lettre cible dans le flux visuel. Mais dans la courbe noire, ne vont pas arriver du tout à la traiter plus loin. Ça va s'arrêter, le traitement va s'arrêter là. Et dans les courbes rouges, le traitement va continuer, le sujet va répondre. Mais vous voyez que plus la collision est forte, plus le délai est court entre les deux, donc plus la courbe est rouge ici, et bien plus les étapes vont être considérablement différées. Et on voit donc à la fois une réduction d'activation pour la courbe noire, qui sont les essais avec le clignement intentionnel, et un énorme délai, dilution et délai des étapes tardives. Les étapes les plus tardives, c'est essentiellement un délai rigide. Voyez, le délai lié au traitement de la tâche 1 se transpose de façon pratiquement rigide aux étapes tardives de la tâche 2. Les étapes centrales, elles sont en partie diluées, comme on le voyait tout à l'heure dans l'expérience comportementale de Edward Wolff, dilution, et retard, et puis suppression complète dans certains essais où on n'arrive pas à franchir le seuil de conscience. Ces phénomènes sont très étroitement reliés. Soit je franchis le seuil de conscience, mais je suis obligé de le faire tardivement, quand la première étape est finie, quand la première tâche est finie, soit je ne peux pas y arriver du tout, et j'ai un collapse, et je ne suis pas conscient qu'il y avait un deuxième stimulus. Voilà un peu l'image magnifique de notre ami Sébastien Marty. Vous voyez qu'on a mis ensemble ici les deux décodeurs, le décodeur pour la tâche 1, le décodeur pour la tâche 2. Et on a mis directement le délai entre les stimuli. Donc chaque tâche induit une sorte de fuseau. Imaginez ce stimulus qui rentre dans le système, qui parcourt toute une série d'étapes. C'est ça qu'on voit sur cette diagonale ici. Et même chose pour le stimulus 2. Lorsqu'ils sont bien écartés dans le temps, aucun problème, les deux tâches se déroulent chacune suivant leur parcours normal. Maintenant, je rapproche progressivement le stimulus 2 de la tâche 1 et je commence à voir des différences. La tâche 1 qui est un petit peu raccourcie, d'accord ? Mais surtout, la tâche 2 qui est considérablement retardée. Et si vous regardez ici, vous voyez qu'il y a une partie des étapes qui reste absolument sur la diagonale, autrement dit qui est inchangée, et puis soudainement, et c'est plutôt vers 400 millisecondes ici, des étapes qui sont massivement retardées. D'accord ? Ils ont repoussé, on le voit, d'autant plus qu'on est proche de la tâche 1. La tâche 1 repousse l'autre. C'est vraiment une sorte de collision mentale. Mariano Siegmann, qui est un physicien, faisait l'analogie avec les accélérateurs de particules où on crée une collision entre deux objets. Mais ici, on crée une collision entre un objet visuel et un objet auditif. Et la collision ne survient qu'à certaines étapes au moment de ce goulot d'étranglement central. Alors la prédiction pour la conscience là-dedans, parce qu'ici, je vous montre juste des temps de réaction, après tout, je n'ai pas demandé au sujet de quoi il était conscient, enfin sauf si on regarde les essais Blink où il n'a rien vu du tout, mais il n'a juste pas répondu. Hein. Mais si on demandait au sujet de quoi il est conscient là-dedans, eh bien, on devrait prédire que le rapport subjectif du moment où est survenu T2 est différé. Le sujet n'est pas conscient du tout de T2. Il ne peut pas être conscient de T2 avant que T2 ait accédé à son espace de travail global. Donc, les sujets ne devraient devenir conscients du stimulus 2 que lorsqu'ils ont été libérés de la tâche 1. Et ils ne devraient pas être conscients que T2 est en train d'attendre dans un buffer non conscient quelque part. Alors, avec Sébastien, et au départ aussi avec Mariano Siegmann, on s'est dit, et Jérôme Sacur, et un étudiant qui s'appelait Coralio, on avait essayé de tester cette prédiction-là, et c'est une idée que je continue de trouver intéressante, qu'on n'a pas suffisamment poursuivie, l'idée de quantifier l'introspection. Non seulement on demande au sujet est-ce que tu as vu, est-ce que tu n'as pas vu, mais on lui demande combien de temps ça a pris pour faire une tâche. Et on s'est dit finalement, tout ce qu'on fait en temps de réaction objectif, où on mesure combien de temps il faut à un sujet pour cliquer sur un bouton, on peut aussi le faire en temps subjectif. Combien de temps penses-tu que ça t'a pris pour réaliser une tâche donnée? Et on peut lui donner un curseur entre 0 et 1 seconde, on peut le calibrer en lui donnant des stimuli auditifs pour qu'il sache vraiment à combien correspond 200 millisecondes, 400 millisecondes, etc. Tout ça marche très bien. Et si on fait une tâche simple, vous voyez, on obtient une excellente corrélation entre l'introspection du temps de réponse et le temps de réponse réel des sujets. Donc en haut, vous avez le temps de réponse réel, en bas, vous avez le temps de réponse introspectif. C'est dans une tâche de comparaison de nombres ici, qui est un peu ma tâche fétiche. Donc les sujets doivent dire c'est plus grand, plus petit que 45. Vous savez que quand les nombres sont proches, vous êtes ralenti. Vous voyez très bien cet effet de distance ici, mais il est là aussi dans l'introspection. Les sujets sont conscients que ça leur a pris un petit peu plus de temps à certains essais que d'autres, et il y a une bonne corrélation entre les deux. Il y a quelque chose à expliquer, mais qui est peut-être explicable ici, c'est que les sujets pensent que c'est plus court. Même s'ils ont été bien calibrés auparavant, ils ne sont probablement pas conscients des étapes perceptives et motrices, et peut-être de certaines autres étapes, mais donc leur introspection, c'est que ça leur a pris moins de temps que ça ne leur a réellement pris. Mais à part ça, ils sont tout à fait conscients de cette étape centrale de la tâche de décision qui crée ce délai de temps de réaction. Maintenant, vous faites ça dans une tâche double. Vous faites exactement la même chose, vous demandez l'introspection du temps qu'il a fallu pour juger un chiffre, mais vous faites précéder ça d'un stimulus auditif. Et vous avez, on retrouve ce qu'on a trouvé auparavant, pour le temps de réaction 1, vous avez une bonne introspection, c'est ce qui est en pointillé bleu ici, mais pour le temps de réaction 2, vous avez toujours cet énorme ralentissement lié à la collision entre les deux tâches. Vous voyez que c'est un effet de 300 millisecondes ici. Le sujet est 300 millisecondes plus lent lorsqu'il est occupé par la tâche auditive et qu'il ne peut pas tout de suite se tourner vers le chiffre. Mais l'introspection, néant. Le sujet n'a aucune introspection du fait qu'il a été ralenti de 300 millisecondes par la collision entre les tâches. C'est ce que prédisait le modèle. Dans la collision centrale, on ne peut pas en être conscient puisque par définition, l'espace conscient est déjà occupé par la tâche 1, n'est-ce pas ? Alors on a été encore plus loin et j'aime beaucoup cette introspection quantifiée. On peut vraiment poser des tas de questions au sujet. C'est assez étonnant d'ailleurs. Ça veut dire que notre introspection, elle est quand même très riche, mais elle est parfois très fausse. Parfois très juste et parfois très fausse. Alors ici, on a fait exactement la même tâche qu'auparavant, mais on a demandé avec Sébastien Marty dans Cognition de répondre à 4 questions. Alors, imaginez la tâche du sujet, c'est vraiment un peu extrême ici. D'abord, il doit répondre à T1, stimulus auditif. Ensuite, il doit répondre à T2, stimulus visuel, qui était ici une lettre. Et puis ensuite, il répond à 4 questions. Combien de temps il vous a fallu pour faire la tâche 1? Combien de temps il vous a fallu pour faire la tâche 2? À quel moment est venue la lettre par rapport au son? Avec quel délai? Et puis, est-ce que... Et ça, c'est une question un petit peu plus subtile ici. Est-ce que vous aviez du temps libre entre le moment où vous avez fini la tâche 1 et le moment où la lettre est arrivée, ou bien, au contraire, est-ce qu'elle est arrivée pendant que vous étiez en train de faire la tâche 1? D'accord. On pose toutes ces questions au sujet, on l'entraîne un petit peu, on le calibre, donc il sait ce que veulent dire ces durées, et puis on lui pose toutes ces questions à chaque essai. Voilà. Et on arrive à reconstruire sur cette base-là d'abord ce qui s'est passé objectivement et puis ce qui s'est passé subjectivement. Donc objectivement, voilà une autre manière de présenter les données. Vous avez le temps de réaction pour la tâche 1, qui est à peu près ici de 650 millisecondes, et puis vous avez le temps de réaction pour la tâche 2 en fonction du moment où a été présenté le deuxième stimulus T2 ici, d'accord ? Et vous avez donc des temps rapides quand il y a un intervalle considérable entre les deux et des temps de plus en plus longs à mesure qu'il y a une collision entre les deux stimuli. Voilà maintenant la reconstruction subjective du même phénomène. Et vous voyez qu'il y a d'énormes différences. Il y a des similarités. D'abord, le temps de réaction 1 est correctement introspecté, plus court que le temps de réaction, réel. Hein. Donc ça c'est l'introspection, ici c'est le temps de réaction réel, mais bien corrélé entre les deux. En bleu, vous avez ce phénomène qu'on réplique ici magnifiquement. Hein. Nous ne sommes pas conscients du ralentissement de la barre bleue ici. Nous ne sommes conscients que de la partie qui dépasse après la tâche 1. De quoi nous ne sommes pas conscients non plus ? Nous nous trompons sur le moment où la lettre a été présentée. Nous ne sommes conscients que du moment où la lettre a été présentée en dehors de la fenêtre de collision avec la tâche 1. Mais nous ne sommes pas du tout conscients de la lettre, du fait que la lettre puisse être présentée pendant la tâche 1. Et ça, c'est vraiment spectaculaire parce que ça inclut des essais à zéro ici. Zéro, ça veut dire que la lettre et le son sont présentés au même moment. Mais le sujet croit que la lettre a été présentée au moment où il a fini la tâche 1 ici. C'est ça qu'indique la barre rouge. Voilà. Et puis la barre verte, ou plutôt la longueur de la barre grise ici, indique également leur estimation de est-ce que j'avais du temps libre ou bien au contraire est-ce que la lettre est arrivée trop tôt. Eh bien, on a une très bonne conscience du temps libre. C'est normal parce qu'on est libre, l'espace de travail est libre de s'intéresser à ces phénomènes, mais on n'est pas du tout conscient du temps occupé, on n'est pas conscient du fait que la lettre survient au bon moment. Et si on soustrait les deux, on obtient la barre verte qui est, on a une excellente conscience du moment où on a fini la tâche 1. On sait quand on a fini la tâche 1. D'accord. Donc on a à la fois une très bonne conscience du temps pour certains événements, tout ce qui concerne la tâche 1, le moment, combien de temps elle dure, quand est-ce qu'elle se finit. Une fois qu'on est libéré de la tâche 1, on a une excellente conscience de la tâche 2. Mais pendant qu'on est occupé à la tâche 1, on a vraiment une tâche aveugle, voilà, un blind spot, mais un blind spot au niveau non pas périphérique, comme dans la rétine, mais vraiment au niveau central ici. On ne peut pas être conscient d'autre chose quand on est occupé par une tâche aussi simple que de juger si un son est aigu ou est grave. Alors, ce qui est quand même étonnant, c'est que le stimulus T2 peut être sauvé. Pourquoi il peut être sauvé? Pourquoi est-ce qu'après 300 millisecondes, on peut encore le voir, dans un certain nombre d'essais en tout cas? Eh bien, sans doute parce qu'il y a un buffer sensoriel qui conserve, avec sans doute une exponentielle décroissante, une trace de ce qu'était ce stimulus. C'est une étape non consciente, mais qui a quand même une sorte de mémoire de travail, on y reviendra, ou une mémoire à court terme plutôt, on y reviendra dans le cours suivant. Alors, ça a conduit Claire Sergent, ensuite, de façon tout à fait indépendante, et quelques années plus tard, à une prédiction assez marrante, et qui vraiment découple complètement la présentation des stimuli de leur prise de conscience. L'idée est très simple, c'est que s'il y a un buffer qui permet de garder des stimuli non conscients dans une mémoire à court terme et de les retrouver par la suite, comme on vient de le voir pour la collision dans la période psychologique réfractaire. Ça veut dire qu'il y a des étapes initiales de traitement. Vous vous souvenez, je vous avais présenté ce diagramme de Claire Sergent. Hein. Il y a des étapes initiales de traitement et normalement, une fois qu'on a franchi les étapes de perception, on accède à la conscience, on amplifie le stimulus, on a de l'activité soutenue et on peut percevoir consciemment une image, par exemple. Mais l'idée de Claire, c'est qu'après tout, s'il y a des buffers sensoriels non conscients, ben on doit pouvoir décaler les deux. On doit pouvoir une désynchronisation entre le moment où on prend conscience d'un stimulus et le moment où il a réellement été présenté. Et en fait, c'est ce qui se produit dans la PRP. Alors, elle a créé un nouveau paradigme dans lequel on peut regarder exactement ce phénomène-là de façon pure, qu'elle appelle l'attention rétrospective, le rétro-cueing, le fait d'indicer de façon rétrograde. On va donner des indices au sujet qui vont lui permettre d'avoir une conscience rétrospective, parfois jusqu'à 900 millisecondes après le phénomène sensoriel. Voilà l'expérience. On va vous flasher un stimulus et on va faire en sorte qu'il est faible, il est au seuil individuellement pour chaque personne, ce qui fait que vous ne le voyez que 80% du temps. D'accord ? Et son contraste est bas. Il peut être à gauche ou il peut être à droite. Et dans une situation extrêmement classique de type tâche de Posner, on va donner un indice. Ici, vous voyez, le cercle devient un peu plus sombre et plus gris, et ça vous indique, dans les cas valides, où se trouve le stimulus. Et dans les cas invalides, ça indique l'autre côté. Et l'indissage à la Posner, c'est le phénomène que lorsque l'indice vient avant la cible, ça nous aide à trouver la cible et ça nous aide à la voir. Et c'est la première chose. Alors, elle va demander après quelle était l'orientation de la cible et puis quelle était la visibilité de la cible. Mais voilà le résultat principal ici. Lorsque l'indice est présenté avant le stimulus, vous avez le phénomène de Posner classique, vous avez le phénomène d'attention, vous avez un indissage attentionnel et ça vous permet de récupérer la cible plus souvent lorsque l'indice est valide, ici en bleu, que lorsqu'il est invalide, ici en rouge. D'accord. Et le niveau qui a été choisi pour dès le départ, c'est 80% de perception correcte. Donc vous voyez que laisser invalide ne vous invalide pas beaucoup, mais laisser valide vous aide énormément. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'attention rétrospective? Eh bien, ça marche aussi en attention rétrospective. Et dans certaines expériences, jusqu'à 900 millisecondes. D'accord. Ça veut dire que vous n'aviez rien vu. Vous n'avez pas pu voir le stimulus. Mais parce que vous avez un indice rétrospectif, retro-cueing, vous pouvez vous retourner en mémoire et prendre conscience d'un stimulus que sinon vous n'auriez pas vu. Voilà. Et ce phénomène de retro-cueing a été répliqué de nombreuses fois maintenant. Claire Sergent m'a fourni ces diapositives ici qui montrent un certain nombre de réplications. La détection elle-même et la visibilité subjective sont affectées. Autrement dit, on peut aider quelqu'un à voir même des centaines de millisecondes après que le phénomène qu'on cherche à voir est disparu sur l'écran. Hein. Le phénomène lui-même, la cible ici, elle est présentée pendant seulement 50 millisecondes, mais il y a suffisamment de buffers non conscients, de mémoire à court terme non consciente, pour pouvoir se retourner dans le temps et amplifier un stimulus qui avait été vu auparavant. Donc, beaucoup de démonstrations hein, que la collision centrale existe, qu'elle peut faire disparaître un stimulus et que si elle ne le fait pas disparaître, elle peut différer considérablement sa perception, que la perception consciente n'est pas forcément en ligne avec le stimulus sur l'écran. Alors, on a décidé dans un article plus récent avec Sébastien Marty de tester directement cette notion d'étape discrète versus d'étape continue d'accès à l'information dans le temps. Et je vais juste vous présenter ces expériences brièvement, même si ça demanderait peut-être plus de temps pour bien comprendre ce qui se passe, mais on a ici une situation donc, dans laquelle on va vouloir tester l'hypothèse qu'au départ, le traitement sensoriel est strictement parallèle, qu'ensuite il y a un début de sélection qui est graduel et qui peut être non conscient, et puis qu'ensuite l'accès à la conscience, lui, il est strictement discret et on a accès à un seul objet à un instant donné. Cette idée d'un goulot d'étranglement qui ne prend qu'un seul objet à la fois. Alors, pour le tester, on a présenté plein d'images au sujet, une série d'images dans ce qu'on appelle RSVP, c'est-à-dire Rapid Serial Visual Presentation. Si je vous présente une image tous les 116 millisecondes ici, vous les voyez plus ou moins toutes. Ça clignote très rapidement, hein. Mais vous avez une impression subjective de voir très rapidement des images qui apparaissent avec un statut conscient qui est un petit peu ambigu. Est-ce que c'est visible ou est-ce que c'est pas visible? Alors, on vous demande de chercher à voir l'image qui est entourée par un carré vert, directement inspirée de l'expérience de Ed Wool que je vous ai montré au départ. On va vous distraire avec une tâche supplémentaire qui est de rapporter la couleur d'un écran qui est présenté au tout départ ici. Je vais vous expliquer dans une seconde pourquoi on fait ces expériences comme ça, mais sachez simplement qu'on réplique le phénomène de Edward Wool, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un long délai entre la couleur initiale et l'apparition de l'écran vert, vous êtes très précis, voyez, dans votre réponse. Vous savez quelle image a été encadrée, est-ce que c'était un visage, un corps, un objet ou un lieu. Et de temps en temps, vous rapportez l'identité de l'image qui était juste avant, parfois juste après, mais très peu. Et par contre, vous avez une dilution, vous voyez, légère, mais mesurable. Vous perdez de l'information pendant le clignement attentionnel et vous avez un élargissement, c'est ce qu'on voit ici, la variance des rapports du sujet est augmenté pendant le clignement attentionnel. Mais donc ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que vous avez quand même une compétition, vous avez plusieurs images possibles, comme dans l'expérience de Ed Wool au départ, et il y en a une qui gagne le plus souvent par rapport aux autres, et c'est celle-là que vous rapportez. Et souvent c'est la bonne, mais pas toujours. Donc on va voir ces étapes de sélection de l'information. Et là, il y a eu vraiment un breakthrough, je dirais, qui a été fait par Sébastien Marty, qui était d'appliquer les décodeurs qu'on a entraîné à une image toute seule. Je vous ai déjà montré ces diapos. On entraîne un décodeur en fonction du temps à décoder quelle est l'identité de l'image qui est sur un écran. Est-ce que c'est un visage, que c'est un corps, un objet ou un lieu? On peut faire beaucoup mieux que les 25% qui seraient une chance sur 4 ici à partir de 100 millisecondes et un peu plus tard et on voit ce phénomène de décalage dans le temps, une série d'étapes successives qu'on est capable de décoder. Eh bien, ici, Sébastien montre qu'on peut décoder chacune des images qui ont été présentées sur l'écran. Elles sont présentées très rapidement, chacune rentre dans le système et chacune crée une activation cérébrale décodable et une diagonale d'activation, ce qui veut dire que dans une tranche de temps verticale ici, vous pouvez entraîner un décodeur sur les étapes précoces ou un décodeur sur les étapes plus tardives et encore plus tardives. Vous avez une tranche de temps dans laquelle différentes étapes de représentation dans le cerveau sont en train de se succéder et l'image N, l'image N-1 et même l'image N-2 sont toujours présentes dans une sorte de pipeline, n'est-ce pas, qui survient à différents moments dans le temps. Alors parmi ces images-là, vous allez devoir en choisir une, en sélectionner une, celle qui est entourée en vert. On peut donc contraster les images cibles et les images non cibles. Et lorsque vous regardez la différence entre les deux, vous voyez que l'image cible et l'image non cible commencent exactement de la même manière, ou presque exactement de la même manière, mais ensuite, vous êtes capable de décoder pendant plus longtemps l'image cible, beaucoup plus longtemps, des centaines de millisecondes plus longtemps, elle est métastable dans votre espace de travail global, et vous avez un décodeur précoce qui continue d'être capable de décoder l'information aussi plus longtemps, qui a une activité soutenue. Vous entraînez le décodeur vers 170 millisecondes ici, mais il continue d'avoir une activité soutenue pendant plusieurs centaines de millisecondes. Donc à la fois accès à l'espace de travail global et amplification descendante d'un traitement précoce. Et alors ce qui est extrêmement joli, c'est que Sébastien Marty a pu montrer que l'étape tardive, elle est tout ou rien. On ne voit que le stimulus que le sujet va rapporter, on ne décode pas les autres stimuli, alors que l'étape précoce, elle est diluée dans le temps, elle est encore graduelle. Donc il y a à la fois dans le cerveau des étapes graduelles de sélection de l'information, et puis une étape la plus tardive, vers 370 millisecondes ici, qui reflète ce caractère tout ou rien de l'accès à la conscience. Une autre manière de voir les choses, c'est de regarder ces décodeurs dans le temps. C'est la même information, hein. Mais vous voyez ici l'image T, l'image T-1, l'image T-2, qui sont toutes amplifiées dans cette étape précoce où on a entraîné le décodeur à 170 millisecondes, donc une sélection graduelle. Et puis ici, clairement, cette sélection tout ou rien, juste l'image T qui est choisie par le sujet, qui est amplifiée pendant un temps considérable, qui est métastable dans le système. Je vous montre que les essais corrects, où le sujet a correctement répondu à l'image C, qui était l'image T ici. Si je vous montrais les essais incorrects, vous verrez un décalage correspondant de ces activations. Donc, on est capable de suivre que le sujet sélectionne une information et dans une certaine mesure, on est capable aussi de voir les essais où il va se tromper, où il sélectionne la mauvaise information. Et on voit ce goulot d'étranglement progressif. Ça ressemble vraiment à ce que Dennett appelait les multiple drafts, hein, les ébauches multiples. Le cerveau sélectionne progressivement l'information et il y en a une à la fin qui atteint la célébrité, qui rentre dans l'espace de travail global. Alors j'en profite pour dire que Sébastien Marty nous a quittés. C'était vraiment un chercheur exceptionnel dans le laboratoire et il a été emporté par un cancer cérébral, par un glioblastome très rapidement. Et donc voilà, nous pensons tous encore à lui. La recherche au laboratoire sur la conscience a pris en partie un coup d'arrêt parce qu'il jouait un rôle absolument central et puis c'était une personnalité vraiment rayonnante. Qui a disparu beaucoup trop tôt. Mais donc je reviens à cette vision de l'espace de travail neuronal global. Hein. J'essaye de construire progressivement dans votre tête une vision de ces étapes de traitement. Et donc il faut imaginer donc cet espace de travail neuronal global qui est ici au centre, hein, qui est au sommet, assis sur une série de circuits qui sont eux constamment parcourus par des signaux en parallèle dans tous les sens. Énormément de traitements parallèles dans tous ces processeurs qui sont présentés ici de façon très schématique. Il faut imaginer vraiment des milliers de processeurs, des centaines de millions de neurones qui travaillent tous en parallèle et qui travaillent tous sur des stimuli auditifs, visuels simultanément. L'espace de travail neuronal global peut saisir un de ces stimuli, peut s'accrocher à l'un de ces stimuli et il peut le faire garder en tête pour une durée arbitraire. On a donc une architecture massivement parallèle avec un goulot d'étranglement central. Et alors je terminerai juste le cours en mentionnant que ces phénomènes donc de clignement attentionnel et de ralentissement qui ont été observés chez l'adulte, eh bien maintenant qu'on a bien caractérisé les phénomènes, on peut se poser la question à quel âge ils se mettent en place. Est-ce qu'ils existent déjà chez les jeunes enfants? Et il y a au moins deux études que j'aurais mentionnées qui suggèrent que oui. En fait, c'est vraiment des contraintes structurelles à ce niveau conscient, on ne peut pas faire deux choses en même temps, et ça existe pratiquement très tôt chez les jeunes enfants. Alors ici, dans un travail sur le clignement intentionnel réalisé par Jean-Rémy Hockmann et Sid Quider, deux chercheurs français, vous avez une situation qui est appropriée pour les enfants, où ils adorent regarder des visages, donc on leur montre un visage au centre, entouré par des non-visages, et puis, dans certains essais, va apparaître un deuxième visage en périphérie. Et on va le mettre avec un délai court, ou bien avec un délai de plus en plus long, en augmentant le nombre de masques entre le visage 1 et le visage 2. D'accord ? J'espère que vous voyez, c'est pas très clair ici, mais on peut avoir un visage 1 et un visage 2 qui sont suivis après un délai considérable, au contraire un délai très court. C'est toujours la même idée. Est-ce qu'il va y avoir une collision entre les deux? Si le bébé est attiré par le visage central, est-ce qu'il arrive à voir le visage périphérique? Et alors la méthode pour le mesurer ici, c'est d'utiliser les mouvements des yeux des bébés. Est-ce que les sujets bougent les yeux vers le visage périphérique? Et vous avez ici, il y a beaucoup d'expériences dans cet article, qui ne sont pas complètement consistantes, mais pas loin. Elles vous montrent que c'est le nombre de fois où le bébé arrive à bouger les yeux du bon côté par rapport au visage qui est présenté en périphérie. Vous voyez que s'il y a un grand délai, même des bébés de 5 mois, après un certain temps, après la présentation du visage périphérique, vont se tourner vers le visage périphérique. Et 8 mois, ici, ils le font de plus en plus. Mais si le délai est trop court, eh bien, ils ne le font plus, ou presque plus. Ils ne se tournent pas autant qu'ils le feraient vers le visage périphérique. Donc c'est interprété par les chercheurs ici comme une distraction. Le bébé a été engagé dans le stimulus central, il n'arrive pas à voir et à se tourner vers le stimulus périphérique. Bon, est-ce que c'est vraiment un clignement intentionnel ou est-ce que c'est un problème d'inhibition ou quelque chose comme ça? C'est pas complètement clair, mais le phénomène est quand même très, très marqué, ressemble au clignement intentionnel. On n'est pas sûr, évidemment, de l'état de conscience du bébé. Alors, vous voyez qu'ici, ce ralentissement, il est de l'ordre de ce clignement intentionnel de l'ordre de 200 millisecondes ici pour des enfants de 3 ans et des adultes. Il est infiniment plus grand pour des très jeunes enfants. Vous voyez qu'à 5 mois ou 8 mois, ici, on parle d'un ralentissement de 500 millisecondes ou de même une seconde de ralentissement pour les enfants. Donc un clignement attentionnel qui serait beaucoup, beaucoup plus durable, quelque part, chez le très jeune enfant que chez l'adulte. Ça correspond complètement aux données que je vous ai montrées dans les cours précédents, où on avait vu que l'embrasement conscient existe chez le bébé. Il y a une non-linéarité dans l'accès à la conscience chez le bébé, mais elle est beaucoup, beaucoup plus lente. L'équivalent de la non-linéarité qu'on voit dans la P3 chez l'adulte survient peut-être 3 fois plus lentement chez le jeune enfant que chez l'adulte. Donc toujours la même idée, hein. Le bébé il a des circuits fonctionnels, y compris des circuits dans le cortex préfrontal, simplement les connexions ne sont pas myélinisées, elles ne sont donc pas rapides, elles sont lentes. Le traitement de l'information en cascade que je vous ai montré, il est beaucoup plus lent chez le bébé, et notamment dans ses étapes centrales, et du coup, on a un clignement attentionnel qui est beaucoup plus durable. Et ce phénomène-là est retrouvé dans un article qui est sous presse du laboratoire de l'équipe de Ghislaine, qui utilise un protocole un petit peu similaire, un petit peu plus complexe aussi. Vous le voyez ici, donc ce sont des bébés de 3 mois et demi. Hein. Ils regardent un écran d'ordinateur pendant qu'on enregistre leur potentiel évoqué ici. Et on leur montre un nounours central en couleur. On fait tout pour attirer leur attention vers ce nounours qui arrive au début d'essai, comme ça. Et puis, avec un délai variable, il va y avoir un visage qui va apparaître d'un côté ou de l'autre. Et de l'autre côté, c'est un non-visage qui apparaît. D'accord ? Donc T1, c'est le nounours. T2, c'est le visage périphérique. Et pour vraiment inciter les enfants, c'est compliqué, on ne peut pas donner des instructions aux enfants. Hein. Chez l'adulte, on peut dire, vous ferez d'abord T1, et puis ensuite vous ferez T2, vous cliquerez ici, vous cliquerez là. Chez l'enfant, on n'a rien de tout ça, chez le bébé en tout cas. Et donc, on est obligé d'essayer de l'engager dans la tâche qu'on souhaite. Alors ici, on essaie de l'engager dans T1 en lui présentant un magnifique nounours en couleur qu'il a envie de regarder. Et puis, on essaye de l'engager dans la tâche T2 en lui montrant que ça anticipe sur un stimulus T3 qui, lui, va être parfaitement visible, qui est présenté pendant une grande durée, qui est le même visage présenté longuement. D'accord. Donc ça lui donne, on espère, ça lui donne envie d'aller voir ce visage en périphérie parce qu'il va le voir ensuite plus nettement. D'accord. Ça va lui indiquer à 100% quel est le côté du visage T3. Donc la question, c'est est-ce que T2 va être vu lorsqu'il est en collision avec un délai assez court? On fait toujours varier ce fameux SOA, là je vous rappelle que ça veut dire Stimulus Onset Asynchrony, l'asynchronie de l'arrivée des stimuli, donc 400, 800 ou 1200 millisecondes ici. Et la première chose qu'on voit, c'est est-ce que le sujet fait une saccade oculaire vers T2? C'est la même mesure que Jean-Rémy Hochmann et Jean-Rémy King Silquider dans le papier précédent. Vous voyez que oui, s'il fait une saccade, c'est uniquement à 1200 millisecondes qu'il en fait un petit peu. Il n'arrive pas à faire des saccades pour les stimuli présentés à 400 ou à 800 millisecondes, donc pendant la collision. Voilà. Donc c'est la première indication qu'il y a une collision ici. Les saccades ne se produisent que lorsqu'il y a un bon délai entre le nounours et le stimulus T2, le visage. Deuxième indication, même si le sujet ne fait pas de saccade, on peut mesurer le diamètre de sa pupille. Et voyez que le diamètre de sa pupille reflète la présence d'un visage ou l'absence d'un visage. J'ai oublié de vous dire, pardon, que T2 est parfois pas présenté. Donc on va comparer les essais T2 présent et les essais T2 absent, n'est-ce pas? Ça va nous permettre d'avoir une comparaison de ce qui se passe dans le cerveau et ici dans les yeux. Et vous voyez que la dilatation pupillaire survient de façon différente dans les essais présents et dans les essais absents pour T2, mais uniquement à des délais suffisamment longs. Et elle est significative ici à 1200 millisecondes, est un petit peu à 800 et pas du tout à 400 millisecondes. Donc là encore, pas de traitement apparent d'un visage qui est le même visage, hein, juste parce qu'il est en collision avec le nounours central. Troisième mesure, vous voyez que là c'est astucieux, vous avez que les images sont sur un fond clignotant très rapidement. Et ce clignotement, on peut le maîtriser et le mettre à une fréquence particulière, ce qu'on appelle frequency tagging. On injecte une fréquence de clignotement dans le système. Et l'idée, c'est qu'on va pouvoir très facilement mesurer avec les EEG le reflet de cette fréquence particulière qu'on a injectée sur l'écran. On va voir un pic de fréquence à la fréquence correspondante, un pic de puissance plutôt à la fréquence correspondante. Et ça va nous indiquer quelle est la tension du sujet. S'il fait attention au fond, alors cette fréquence va être plus intense, la puissance de cette fréquence va être plus intense. S'il fait attention à l'image qui est présentée devant, alors la puissance va être diminuée. Et on voit une diminution de puissance qui est caractéristique, qui est uniquement dans les essais avec un délai suffisamment grand. Quoi d'autre? Il y a beaucoup de détails dans cet article qui tous concordent pour dire que le bébé subit un goulot d'étranglement central. Alors il y a un premier détail qui est assez intéressant, c'est que les visages peuvent être présentés à droite ou à gauche, et dès cet âge-là, il y a déjà une latéralisation. L'hémisphère droit est un petit peu meilleur pour percevoir les visages, et donc quand le visage est présenté du côté gauche, toutes les mesures dont je viens de vous parler sont un petit peu plus augmentées par rapport au cas où le visage est présenté à droite et donc atterrit dans l'hémisphère gauche. Donc il y a une visibilité plus grande, et notamment à 800 millisecondes, le visage qui est présenté du côté gauche, donc à l'hémisphère droit, peut être sauvé et être vu probablement par l'enfant. En tout cas, ces mesures sont augmentées, ce qui est compatible avec une latéralisation de la perception des visages. Et puis alors, dernier fait phénomène, et j'arrête là. Évidemment, toute cette idée suppose que le bébé s'est engagé dans le stimulus T1. Alors avec un adulte, c'est facile, on lui demande de faire une tâche, on peut vérifier qu'il a cliqué du bon côté, qu'il a fait attention, et on peut éliminer les essais où il n'a pas fait attention. Chez le bébé, on fait ce qu'on peut, on espère qu'il a été attiré par le stimulus central, mais ce n'est peut-être pas toujours le cas. Alors les chercheurs ont eu l'idée ici de trier les essais qui ont subi plus ou moins d'engagement de la part de l'enfant sur ce stimulus central. Et donc François Leroy l'a appliqué ici une idée qui avait déjà été publiée séparément, qui est de regarder ce qu'on appelle le fly-by, c'est-à-dire la vitesse avec laquelle un essai s'approche de la moyenne ici. Donc on a créé un potentiel évoqué moyen pour la P400, et on regarde à quelle vitesse un essai donné s'approche de cette étape-là, et on peut trier les essais en essais courts et essais lents. Et ce qu'on voit, effectivement, c'est logique, on a trié les essais en fonction du délai de la P400, donc elle est plus ou moins différée ici, mais il y a des étapes antérieures qui sont très différentes et qui suggèrent un engagement beaucoup plus grand. Si on interprète cette N290 ici comme un engagement de l'enfant, l'engagement de l'enfant dans le stimulus T1 serait plus grand dans les essais en bleu que dans les essais en rouge, d'accord? C'est ça la logique de cette expérience. Et ensuite, il nous montre que ça a l'air de fonctionner effectivement comme ça, c'est-à-dire que si on trie les essais en fonction d'un faible engagement, d'une faible attention à T1, qui est représentée par ce flou ici, donc pas d'engagement de l'enfant dans le stimulus T1 versus un engagement plus grand dans les essais bleus, juste en triant les essais en fonction des potentiels évoqués, on retrouve que les mesures que je vous ai présentées avant sont présentes à délai court, hein, on est ici à délai court, uniquement lorsque le sujet n'est pas engagé par le stimulus T1 ici. Donc, on a trouvé des marqueurs de conscience à délai long. Ils existent également à délai plus court lorsque le sujet n'est pas suffisamment engagé dans T1. Il fait moins de saccades quand il est engagé que quand il n'est pas engagé. Les saccades sont dans la bonne direction plus souvent quand il n'est pas engagé que quand il est engagé. Et la différence de frequency tagging, de fréquence vue dans les stimuli, n'est pas la même dans les essais où il est engagé, dans les essais où il n'est pas engagé. Donc dans toutes ces conditions, on a l'impression qu'on peut percevoir ce que le bébé perçoit. On sait qu'il y a des essais où il s'engage fortement dans T1, et dans ce cas-là, les marqueurs de conscience à T2 ne sont pas présents, et inversement. Alors je vais m'arrêter là. Je voudrais simplement donc résumer très brièvement ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu qu'un phénomène crucial dans l'analyse de la conscience, c'est la collision centrale. Dans énormément de situations, nous ne pouvons pas prendre deux décisions en même temps, nous ne pouvons pas prendre conscience en même temps de deux objets extérieurs. C'est une étape centrale qui est ralentie alors que les étapes sensorielles ne le sont pas. Voilà. Et ça veut dire, pour revenir à Dan Dennett et au sujet général de ce cours, que le moment où nous prenons conscience d'une représentation mentale peut être dramatiquement différent du moment où l'événement survient réellement. Et on l'a vu de différentes manières. D'abord, chez un bébé, mais aussi chez nous tous, la conscience est en retard par rapport à un stimulus, même quand il y a un stimulus unique. Ce retard est au moins de l'ordre de 300 millisecondes pour un événement qui n'est pas prédit. Alors, si l'événement était prédit, on pourrait peut-être anticiper. Donc c'est différent. Mais ici, je vous ai parlé d'événements qui ne sont pas prévisibles, qui surviennent dans un ordre aléatoire. Et dans ce cas-là, il faut au moins 300 millisecondes et sans doute plus pour faire le calcul et décider d'une prise de conscience. Et puis, ce délai peut être encore bien plus grand chez le bébé. Il faut imaginer que ces petits-enfants sont en retard considérable par rapport au monde extérieur. Je pense que ça correspond bien à notre intuition. Hein. Quand on interagit avec des petits-enfants, il faut parfois une seconde, deux secondes plus pour arriver à attirer leur attention et avoir une prise de conscience. Mais je crois qu'elle existe. Beaucoup d'indices suggèrent qu'elle est là. Hein. Et puis, on a vu un troisième cas où c'est vraiment dramatique, c'est la PRP, le ralentissement lié à la collision. Si vous êtes occupé par une tâche, vous pouvez devenir complètement aveugle à d'autres tâches. Et si vous arrivez à voir le deuxième stimulus, c'est avec un délai très important. Et le rétro-cueing, le paradigme de Claire Sec-Jean, suggère qu'on peut encore sauver des stimuli qui sont en attente. Mais tant qu'ils sont en attente, on n'en est absolument pas conscient. Alors ça, c'est le phénomène le plus important. Hein. Nous ne sommes pas conscients de tous ces délais. Il faut l'analyser par toutes ces méthodes psychologiques. Pardonnez-moi pour la complexité un petit peu de ces méthodes qu'on a mis en jeu aujourd'hui, mais c'est tout simplement parce que nous n'en sommes pas conscients du tout. Nous avons des délais de plusieurs centaines de millisecondes dont nous ne sommes pas conscients. Voilà. Et alors, ce qui est quand même spectaculaire, c'est que le détail de toute cette phénoménologie et de toutes ces, à la fois les aspects objectifs et subjectifs de la conscience, la non-conscience des délais, s'explique très bien par ce schéma extrêmement simple ici du modèle de l'espace de travail neuronal global. Je dis ça parce que je considère que ça fait partie des données fondamentales sur la conscience que tous les modèles devraient expliquer. Et honnêtement, des modèles qui font appel à la périphérie, qui disent que c'est des activations dans les aires postérieures du cortex pour les stimuli visuels qui sont responsables de la prise de conscience, n'expliquent pas pourquoi la simple présence d'un stimulus auditif ou d'une tâche beaucoup plus abstraite, faire un calcul mathématique ou des choses comme ça, peut autant vous empêcher de prendre conscience d'un stimulus visuel banal comme un mot qui est présenté pour une grande durée sur l'écran. Donc il y a des phénomènes fondamentaux expliqués là de collision centrale qui me semblent nécessiter, sinon le modèle de l'espace de travail global, au moins quelque chose de similaire, c'est-à-dire un système tardif, lent, central, qui met en compétition des stimuli de modalités très différentes. Voilà. C'est cela que le modèle d'espace de travail neuronal global explique relativement bien. Et avec ça, je vous remercie de votre attention. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.